Et vous savez, si j'ai pris ce texte, c'est parce qu'il n'y a pas ces annotations, ces titres, ces sous-titres, tout cela. Parce que c'est l'imagination de certains traducteurs qui a pensé que ça devait être comme ça. Et alors on a arrangé les choses, ça fait plein de difficultés. Et c'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il faut faire des arrangements. Comprenez-vous? Il faut plutôt demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a cette difficulté? Qu'est-ce qu'il y a que je ne comprends pas? Il doit y avoir un sens à cela. Et c'est là qu'on est obligé de suivre justement ce que les hébraïsants reconnaissent. Et non pas arranger les choses à notre sauce, parce que justement, on veut maintenant que le cantique des cantiques soit le poème qui justifie la cohabitation, l'amour des amants en dehors du mariage. Et ce sont des théologiens. Et alors, j'ai beaucoup regretté, quoi que je fasse partie encore de cette société biblique. Autrefois, la société biblique mondiale, eh bien, refusait de mettre justement des annotations. On publiait la Bible sans notes. Parce qu'on a toujours critiqué le catholicisme qui mettait des notes pour conduire la pensée. Et alors, il y avait des notes qui étaient tout à fait fausses. Par exemple, sur Genèse 3, 15, le protévangile, la postérité de la femme te brisera la tête. On disait que c'était qui? Marie. Or, c'est la postérité de Marie. C'est donc qui? Saint Jésus qui a écrasé la tête du serpent. Mais maintenant, dans les Bibles catholiques ou dans la Bible théobée, la Bible œcuménique, c'est bien dit que c'est le Seigneur. Parce qu'il y a eu Vatican II et on a fait des corrections. Et on est revenu à l'écriture. Alors, moi, dès que je vois quelqu'un qui revient à l'écriture, eh bien, j'exulte, je suis heureux, ça me réjouit. Si nos frères catholiques comprennent cela, alors alléluia! Est-ce que vous vous réjouissez que les gens soient un peu éclairés et aient le courage de changer, de se laisser corriger? C'est ça la parole de Dieu, tu comprends? Et alors, évidemment, si tu lis les deux, là, tu peux comparer, bien sûr, mais je veux croire que le Seigneur te fera apprécier de plus en plus ce texte, parce qu'alors tu verras qu'il y a toutes ces interprétations qui vont être coordonnées, et que tu verras l'esprit prophétique, parce que pour moi, et je le répète, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Le cantique des cantiques au centre de la Bible, c'est l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Et que veut dire Apocalypse? Révélation. Et révélation de qui? De Jésus. Et vous retombez sur vos pieds ainsi. Hein. Vous êtes sûr que c'est cela. Vous êtes sûr que c'est vrai. Parce que Jésus a dit, sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et le livre... que la parole de Dieu a pour effet de nous sanctifier et non pas de justifier nos tendances et nos appétits sexuels. Comprenez-vous? Le sexe vient de Dieu, mais il est contrôlé par Dieu. Il se manifeste dans un certain cadre, sous une certaine discipline. Et le Seigneur se réjouit de nos joies que nous pouvons aussi avoir sexuellement. Il n'y a pas de tabou, mais il y a toujours l'amour à trois. Mais le troisième? Il ne faut pas être tordu, hein, parce que je sais très bien que c'est risqué ce que je dis. Parce que vous enlèverez juste cette partie pour dire « Racine, voilà ce qu'il dit ». Mais vous mettez ni ce qu'il y a avant, ni ce qu'il y a après. Et c'est comme ça qu'on démolit un serviteur. Mais c'est un risque à courir. Le Seigneur a risqué la croix. Puis qu'est-ce qu'on a dit? Qu'il était plastiqueur. Avant le temps, il voulait faire sauter le temple. Hein? Il avait dit « Détruisez le temple ». Puis moi, je l'ai reconstruit en 3 jours. Et on a apporté ça 3 ans après. On a dit, voilà ce qu'il a dit. Vous voulez détruire le temple, figurez-vous. Vous voyez, on a condamné le Seigneur. On l'a accusé de tout. Alors, on est toujours en bonne compagnie quand on nous accuse. Mais des fois, ça fait de la peine, ça fait mal que ce soit des chrétiens qui se livrent à ce travail de sape et de démolition. Oui. Non, c'est plus la même chose, alors à toi de choisir. Le Seigneur ne violente pas. Même si tu veux garder ton quel il le veut, ça veut dire que le Seigneur respecte ta liberté. Et il ne te forcera pas de l'aimer. Mais on l'a déjà expliqué, puis on l'expliquera encore, oui, mais ça va venir. Mais ici, les amis, ce que nous voudrions, c'est qu'est-ce que le Seigneur t'a dit à toi? Des choses personnelles, pas encore des explications, je vous les donne quand même. Vous reviendrez sur ce que vous n'avez pas compris, n'est-ce pas? Mais si nous vous avons donné ce texte, c'est pour que vous puissiez le suivre et non plus être mélangé. Parce que sans ça, je n'aurais pas pu apporter le cantique des cantiques. Avec les versions modernes. Mais autrefois, les versions n'étaient pas étaient comme celle-là, dans le sens qu'il n'y avait pas ces annotations qui vous trompent. Parce qu'on veut y appliquer des règles modernes et voir dans cela. Et ce serait des matériaux hétéroclites. Pour certains, il y aurait 13 champs qui auraient été mis ensemble, plus ou moins. Les uns après les autres. Mais il faudrait peut-être en changer la position, il faudrait mettre un cantique plus en avant que l'autre. Il y en a d'autres qui ont vu les 7 nuits du mariage. Alors il y a les 7 soirs, les 7 matins. Et puis comme on le sait que ça durait 7 jours, voilà pourquoi il y avait tant de vin à Cana, hein. Ils ne se sont pas saoulés tellement. Parce que ça durait 7 jours, les noces, puis tout le monde était invité. Et puis, le marié, il venait le soir, surtout quand on ne le voyait pas, il entrait vers sa bien-aimée, puis il repartait tôt le matin. Alors, il y avait toujours cette attente, n'est-ce pas, le départ et le retour. Alors, vous pouvez voir toutes sortes de choses, ça c'est évident. Vous pouvez en prendre aussi de la graine pour votre union conjugale. Mais quant à justifier la cohabitation, ce n'est pas possible. Oui, c'est possible, quand on tord les Écritures. Mais c'est ce qui se fait maintenant. On tord les Écritures. On veut justifier aussi l'homosexualité. On m'a demandé de prêcher aux Jésus pendant les 6 soirs de novembre et décembre, tous les mardis soirs. Et on me donnait toute liberté à Montréal, oui, dans une église catholique. Mais quand j'ai vu ce qui s'est passé, qu'un évêque de Montréal présiderait à Pentecôte, quoi? Le congrès des gays et des lesbiennes de l'Amérique du Nord, réunis à Montréal pendant 3 jours, et que c'est un évêque romain, je connais, qui présiderait l'Eucharistie. Non, non, je dis, moi, je ne peux pas m'associer à des choses pareilles. Je peux aller parler à des homosexuels, je peux avoir beaucoup de compassion pour des lesbiennes ou pour des gays, mais je ne pourrais pas leur donner la communion en disant, ben, vous êtes membre du corps de Christ, etc. Mais c'est une abomination. Vous ne comprenez pas? Alors ça, je ne peux pas le faire. Alors j'ai protesté, et j'ai dit, demandez qui vous voudrez, mais moi je ne m'associe pas, je prêcherai l'évangile dans la liberté, mais pas dans une association pareille. Parce qu'au fond, on veut accréditer ces choses. Et il y avait des conférences qui étaient faites, n'est-ce pas, pour justifier cela. L'Église maintenant comprend. C'est l'amour. L'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? On veut dire que c'est naturel, ça. très naturel. Ben oui, vous n'aurez pas d'enfant. Ça règle une question. C'est abominable. Et quand on emploie l'Église pour ça encore, pour mettre sa bénédiction là-dessus. Alors, mes amis, je vous laisserai demain dire encore tout ce que vous avez trouvé sur ces merveilleux versets, mais je veux quand même rapidement les couvrir et terminer et vous donner quelques jalons qui vont vous exciter à lire l'Écriture. Alors, nous disons ceci, en reprenant un peu tout ce chapitre. La confession du nom du bien-aimé a rendu la joie et la paix à l'âme qui s'était laissée endormir sur l'oreiller de la grâce. Elle était sauvée. Mais elle s'est endormie sur son salut. Je suis sauvée, j'attends le Seigneur. Je chante des cantiques. Et puis, je m'endors. Puis, voilà. Au lieu de servir le Dieu vivant et vrai, parce que c'est ça, hein, quand on est converti, on est sauvé, oui. On attend le Seigneur, mais on est sauvé pour servir et attendre. Pas simplement sauvé pour se reposer, mais sauvé pour servir et attendre des cieux Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. C'est ce qu'avaient compris les Thessaloniciens au chapitre 1. Alors, sorti de sa torpeur, par l'appel du bien-aimé qui a passé près d'elle à la porte, qui lui a dit « Ouvre-moi », eh bien, tout à coup, elle s'est réveillée, elle ne s'est pas levée tout de suite, mais quand, enfin, la main du Seigneur a remué ses entrailles, parce qu'il a passé sa main par le guichet, elle a vu cette main percée, eh bien, ça l'a bouleversée, elle s'est ressaisie, alors qu'elle avait toutes sortes d'excuses pour ne pas se lever, nous l'avons vu, aucune de ces excuses ne tenait. Alors, elle a voulu le chercher, mais elle ne l'a pas trouvé. Elle s'est fait battre par les gardes de la ville. Elle a donc été humiliée et elle a été mise en demeure devant tous de dire ce que son bien-aimé était pour elle. Et alors, à ce moment-là, on peut dire que ce nouveau s'est mis à brûler dans son cœur et elle a fait une confession merveilleuse que je vous invite à relire et à méditer, montrant le prix qu'elle attache à celui qui sera son époux pour l'éternité. Il n'y en a pas de pareil. C'est un porte-bannière entre 10 000 et puis voilà, à mesure qu'elle parle de lui, c'est de l'or, c'est de l'or, c'est de l'or. Sa tête est de l'or, ses mains sont de l'or, ses pieds sont de l'or. Il n'y a rien de plus précieux pour elle. Et elle en parle avec un amour et elle confesse ainsi le Seigneur. Et c'est au fond par cette confession qu'elle est délivrée de sa misère dans laquelle elle se trouvait. Car, comme Jésus l'a enseigné, si nous n'avons pas honte de lui, de confesser son nom sur la terre, qu'est-ce qu'il fera? Il confessera notre nom devant son Père qui est dans les cieux. Et alors, le bien-aimé, quand il l'a entendu confesser son nom de cette manière-là, son cœur a été bouleversé. Le cœur du Seigneur est bouleversé quand il entend même une âme endormie spirituellement qui s'est réveillée et qui dit quelque chose de lui. Il oublie le sommeil de la bien-aimée et il n'entend plus que ce qui est positif dans ce que la bien-aimée a pu lui dire. Matthieu 10, verset 32 à 33. Alors, ayant retrouvé la présence du bien-aimé au fond de son cœur, parce que c'est là qu'il était, elle croyait qu'il était loin, mais c'était elle qui était sortie dans ses pensées. Mais le Seigneur était là, il ne nous abandonne pas, il est toujours là, nous croyons qu'il nous a laissés. Il ne vous laisse jamais, c'est vous qui sortez faire vos petites promenades, prendre votre café break. Mais le Seigneur reste là, vous prolongez vos absences, mais le Seigneur est là. Et c'est ça qui est merveilleux. Alors, elle a reconnu qu'il était au fond de son cœur, dans son jardin, à elle, qu'il ne l'avait jamais quittée. Elle a compris que c'était elle qui s'était éloignée de lui. Alors, elle a pu de nouveau entendre sa voix lui parler avec amour, comme si elle n'avait eu aucun manquement à son égard. C'est cela qui me bouleverse et que je trouve admirable. Le Seigneur ne lui fait pas de reproche. Quand il lui parle de nouveau pour la première fois, il lui dit les mêmes choses, les mêmes mots d'amour. Il ne lui dit pas « oui, mais voilà ce que tu as été ». Nous, quand nous voyons quelqu'un qui a péché, même qui a été restauré, on a toujours envie de lui rappeler ses fautes. Mais le Seigneur, lui, quand nos fautes sont confessées, il ne s'en souvient plus. Et il ne veut pas que nous vivions dans le souvenir de nos fautes, parce qu'alors nous sommes culpabilisés, nous ne sommes pas heureux, et nous ne pouvons pas lui rendre un témoignage joyeux. Alors, voilà, elle a entendu sa voix, elle est toujours belle à ses yeux, elle reprend confiance, elle voit que rien n'a été altéré en elle, c'est l'amour qui a triomphé en elle, et la voici qui devient redoutable. Elle qui était si minable, elle devient une puissance redoutable. C'est ce que nous avons lu. Elle devient une puissance redoutable. On la compare à deux villes qui sont des capitales. Tirza, qui était la capitale de l'Israël du Nord avant Samarie, et Jérusalem, la capitale du royaume de Juda. Et elle-même, elle est appelée, oui, redoutable. C'est quelque chose de merveilleux. Redoutable comme des troupes sous leur bannière, verset 4. Elle est donc vainqueur de Dieu, comme Jacob. Mais comment est-ce que Jacob a eu la victoire sur Dieu? Ce n'est pas dit dans la Genèse. Il faut aller trouver la clé de sa victoire dans le chapitre 12 du livre d'Osée, que beaucoup de gens ne lisent pas. Et au verset 4 du chapitre 12, nous voyons ce qui a vaincu l'ange qui combattait avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez déjà compris? Qu'est-ce qui donne de la puissance sur Dieu? À quoi est-ce que Dieu ne peut pas résister? Et voilà pourquoi il dit « Détourne de moi tes yeux, car il me trouble. » Parce que Dieu, à un moment donné, il est tout prêt de faire les choses. Mais il ne veut pas agir avant l'heure. Mais quand il voit certaines manifestations dans les yeux, il est troublé. Et il va céder, si je veux dire ainsi. Un Dieu qui cède, à quoi est-ce qu'il cède? À la supplication qui est faite avec des larmes. Et quand j'étais jeune, j'aimais à reprendre les larmes depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, de faire ma chaîne biblique où je voyais que Dieu ne résiste pas aux larmes. Que ce soit les larmes d'une petite servante égyptienne, Agar, hein, le Seigneur cède et il la délivre. Que ce soit un Jacob, Jacob a pleuré. Il pleura et supplia. Et voyez-vous, les quelques exceptions confirment la règle. Il a dit qu'Ésaü a pleuré, hein, et il ne trouva pas lieu à la repentance, quoi qu'il l'eût recherché avec larmes. Mais qu'est-ce qu'il a recherché, Ésaü? C'est la bénédiction perdue. Il ne s'est pas humilié. Il a pleuré parce qu'il avait perdu la bénédiction. Il n'a pas pleuré sur sa faute, sur son mépris du droit d'aimé. Comprenez-vous? Mais sans cela, regardez l'apôtre Pierre. Comment cet apôtre qui avait renié le Seigneur avec imprécation a trouvé le pardon de son maître quand Jésus l'a regardé après que le coq ait réveillé l'âme de Pierre, hein, il soit dû en plan un animal pour nous réveiller. Pas toujours un homme de Dieu. Un coq. On a vu qu'il employait des corbeaux, il veut bien employer un coq aussi. C'est le Seigneur des coqs, c'est le Seigneur des corbeaux. J'ai commandé aux corbeaux de se nourrir là. Et puis pour réveiller un apôtre, il peut bien employer un petit tigre. Hein? Cocorico. Et l'empereur coupe le chant du coq. Alors, il rentre en lui-même. Jésus se tourne, le regarde. Et dans les larmes du repentir, Pierre a trouvé le pardon de son maître. Il sortit et pleura amèrement. Puis je pourrais vous multiplier les passages qui montrent que des femmes ont pleuré. Anne a pleuré. Hein. Elle a été exaucée. Ce qui vous donne de la puissance, et pas des larmes de crocodile, hein. Mais que réellement, hein, vous voulez la chose, vous êtes humilié, il y a des larmes qui peuvent sortir. Alors, vous comprenez maintenant les tours de moi de Jésus, parce que Dieu ne peut pas résister à cela. Il ne peut pas résister aux larmes de la veuve qui s'en va mettre son fils, le seul soutien, en terre. Quand il l'a dit pleurer, il arrête le cortège. Ne pleure pas. Avec Marie, au tombeau de Lazare, c'est la même chose. Vous pouvez reprendre ça à travers toute l'écriture. C'est pourquoi j'aime l'écriture, parce que ça se tient. Et il y a une unité merveilleuse. Et vous avez des bases solides. Ce n'est pas mon imagination. Et voyez-vous, pour comprendre le Cantique des Cantiques, nous n'allons pas nous laisser guider par notre imagination. Nous allons nous laisser contrôler par la parole. Un verset explique un autre verset. Nous ne cherchons rien d'autre. Alors, nous continuons très, très brièvement et nous voyons que quand elle a laissé ses yeux devenir les fenêtres de son âme, tout a changé. Elle a maintenant pouvoir sur Dieu parce qu'elle a été brisée et humiliée. Alors je dirais que si le bien-aimé emploie les mêmes mots pour lui parler, les mots qu'il employait autrefois dans le chapitre 4, ses cheveux qui sont semblables à des troupeaux de chèvres, ses dents semblables à des brebis tondues qui montent du lavoir, nous avons essayé de comprendre tout ce que cela voulait dire. On emploie ses dents pourquoi ? Pour manger la parole, mais il faut les avoir lavées quand même. Il faut que nos dents soient saines et dans sa grâce qui n'en manque pas, que nous puissions mastiquer ce que nous disons quand nous nous nourrissons de la parole. Eh bien, il lui redit les mêmes choses. Alors on peut dire, mais alors, il a manqué d'inspiration cet auteur, il se répète, oui comme moi. Je me répète. Pourquoi ? Parce que c'est votre sûreté. Parce que c'est comme ça que vous apprenez. Vous redire les mêmes choses, dit saint Paul, ne m'est pas pénible. C'est ainsi que vous recevez une instruction. Parce que si je vous dis simplement lisez, lisez, je ne suis pas sûr que vous le faites. Alors, nous essayons de vous redire les mêmes choses, jusqu'à ce que en vous ayez le déclic et que vous démarriez vous-même. Donc, si le Seigneur redit les mêmes choses, c'est parce que c'est nécessaire. Il lui montre d'abord qu'il n'a pas changé de sentiment, mais aussi qu'elle a besoin de réentendre plusieurs fois la même parole pour qu'elle soit instruite et pour son avancement spirituel. Et je dirais que le Seigneur se plaît aussi à nous apprendre qu'au travers des âges, sa grâce a atteint plusieurs familles de rachetés, de toutes les classes. Il y a les 60 reines, il y a les 80 concubines, il y a des jeunes filles vierges sans nombre. Toutefois, le bien-aimé veut que sa fiancée sache qu'au milieu de tous les sauvés, de toutes les économies, son église ou sa colombe et sa parfaite sont uniques. Votre âme est unique pour lui. Mais si vous appliquez tout cela à l'église, eh bien, on peut dire que parmi toutes les générations sauvées, l'Église, hein, en tant que corps de Christ, est son unique et sa parfaite. Vous pourriez lire Hébreux 12, versets 22 à 24, comme aussi nous avons vu Éphésiens 3, mais je n'allongerai pas. Alors, on peut appliquer ces textes des reines, des concubines, à l'âme humaine, donc rachetée, mais aussi à l'Église, selon Éphésiens 5, verset 22. Et je dirais simplement que les reines, les concubines, les jeunes filles, ce sont des âmes qui ont été en relation avec le Seigneur, il y a plusieurs classes, et qui seront parmi les sauvés. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que vous qui serez sauvés. Il y en a du nord, du midi, de l'orient, de l'occident qui seront sauvés, que vous ne connaissiez pas, et qui s'assiéront à la table d'Abraham. Nous avons des conceptions très étroites en pensant qu'il n'y a que nous. Et nous sommes toujours à dire au Seigneur, est-ce que les sauvés sont un petit nombre? Le Seigneur dit, ne t'occupe pas de ça. Passe par la porte étroite. C'est ça qu'il faut. C'est pas de savoir s'il y a beaucoup de sauvés ou beaucoup de perdus. C'est d'avoir passé la porte étroite. Voilà comment le Seigneur répond. Et voyez-vous, il faudrait du temps pour voir dans Romains 2. Nous voyons que tous ne seront pas jugés de la même manière. Nous, nous serons jugés d'après les connaissances que nous avions de la parole de l'Évangile. Tandis que les Juifs sont jugés par la loi. Et les païens, comment seront-ils jugés? Est-ce que vous allez me dire que tous les païens sont perdus? Alors vous allez dire, oui, mais alors c'est très dangereux ce que vous dites là, on n'a pas besoin d'évangéliser. Oui, il faut évangéliser. Mais pas simplement parce que vous allez sauver les hommes, c'est pas vous qui les sauvez. C'est Dieu qui sauve. Parce que quand vous avez le salut, vous avez une vie toute différente. Comprenez-vous? Votre vie terrestre change, vous êtes délivré de toute la superstition, de tout cet écrasant fardeau des religions de l'Inde ou des religions noires. C'est une véritable délivrance. L'Évangile apporte la lumière, l'Évangile apporte la libération. C'est pas simplement pour mourir en paix, comprenez-vous? Et alors, il y a des païens et qui ont eu la loi dans leur cœur, la loi naturelle, hein, qui ont respecté la loi naturelle. Ils n'ont pas eu certaines connaissances que nous, nous avons. Alors, ils seront jugés d'après les connaissances qu'ils ont. Et voilà qui rééquilibre toute chose. Et je n'ai pas à dire, ben moi, je suis simplement les lois naturelles, comprenez-vous? Non, parce que vous en savez plus, alors vous serez jugé d'après les connaissances que vous avez. Alors prenez Romains chapitre 2 et vous allez respirer et vous dire, c'est vrai qu'il est juste, il n'est pas petit comme nous. Nous sommes de drôles de petits juges. N'est-ce pas? Et puis nous ferions beaucoup de mal. Puis nous mettrions beaucoup de gens en enfer. Au lieu de comprendre que c'est nous qui méritions l'enfer. C'est ça, les vrais sauvés. Ils comprennent que eux méritent l'enfer. Mais que tous les pauvres pécheurs, eh bien, on souhaite qu'ils soient sauvés. Plutôt que moi j'aille en enfer, mais que vous soyez sauvés. Alors tout à coup, après cela, vous avez les versets. Qui est celle-ci qui apparaît? C'est beau. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore? Mais qui est-ce qui dit cela? Bien, c'est ce cœur. Ce n'est pas le bien-aimé, mais c'est les gens qui entendent tout ce témoignage. Tout à coup, qui est celle-ci qui apparaît? Oh, mes amis, voilà que c'est un livre prophétique. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore? Qu'est-ce que c'est que l'aurore? Pour vous, c'est le retour en gloire du Seigneur. Mais quand il reviendra en gloire, qu'est-ce qu'il aura avec lui? Son Église, elle sera glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, quand il apparaîtra en gloire. Mais il l'aura d'abord enlevé, avant l'aurore, car nous attendons quoi? L'étoile du matin, qui s'élève avant l'aurore. Avant que le soleil de justice ne se lève, il y aura le lever de l'étoile du matin. Elle est déjà levée dans nos cœurs. C'est la bienheureuse espérance du retour de Jésus qui peut se passer d'un instant à l'autre cette nuit même. Parce qu'un jour, il sera venu. Hein. Et il enlève les siens. Alors, une puissance d'erreur vient sur ce monde. Et nous voyons bien que ce monde mûrit pour ce jugement-là. Le monde va au-devant de la colère, mais les croyant à quelques dénominations qu'ils appartiennent, ils attendent Jésus. C'est là leur délivrance. Et ils ont une bienheureuse espérance. Mais alors, qu'est-ce qui se passera une fois que l'Église aura été enlevée? Eh bien, l'Évangile sera encore annoncé, mais par qui? Paris. Par Israël, alors à ce moment-là, Dieu va reprendre ses relations avec ce peuple, Israël, qui ne croit pas en Jésus. Donc, il n'est pas compromis par les iniquités de la chrétienté. Mais il y a des hommes parmi les Israélites qui seront sauvés, qui seront de nouveau les témoins du Seigneur, mais des témoins ardents et bouillants, non pas comme les chrétiens que nous sommes et qui aimons le monde et qui, au fond, ne vivront pas ce que nous disons et qui n'avons plus de poids, plus de force, parce qu'on est trop, handicapé par les iniquités de la chrétienté. On a fait l'Holocauste, on a fait les croisades, et vous voyez les musulmans qui montent, mais les chrétiens n'ont pas de pouvoir pour les apporter l'évangile aux musulmans. On a les mains pleines de sang vis-à-vis des musulmans. Et puis vis-à-vis des juifs, on n'a pas d'autorité pour leur parler, parce qu'on a fait, tout en étant baptisé, catholique ou protestant, peu importe, on a fait l'Holocauste. Alors comment voulez-vous que nous puissions apporter l'évangile au monde? Puis surtout quand on appelle encore sa croisade, insensés que nous sommes, nous les heurtons de front. Mais le Seigneur reprendra ses relations avec son peuple, et alors vous commencez à comprendre que c'est d'Israël, et pourquoi c'est l'Apocalypse aussi? Bien parce que c'est l'esprit prophétique qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore. Un jour, l'Église humiliée, qui montait du désert et que nous voyons aujourd'hui avec des taches, avec des rides, elle sera transfigurée et semblable au Christ, et elle apparaîtra quand il reviendra à leur en gloire, belle comme la lune. La lune, d'où a-t-elle sa beauté? Du soleil, sans ça c'est un astre noir. Mais tout son éclat, la lune, tient cela de du soleil. Alors la lune est une figure de l'Église, elle n'a pas d'éclat en elle-même, mais elle reflète l'éclat du soleil. Qui est le soleil? Le soleil est l'image du Seigneur. Le Seigneur est un soleil, un bouclier. Alors voilà, on peut méditer sur cela, et la bien-aimée, maintenant, elle est belle comme la lune et comme le soleil, identifiée au Seigneur lui-même. Le corps de Christ, dans sa totalité, c'est la tête, Jésus, et les membres du corps. Alors elle est redoutable comme des troupes sous leur bannière, car quand Jésus reviendra, c'est pour juger le monde. Et si nous, nous avons souffert avec lui dans ce sens-ci, nous régnerons avec lui. Quand il viendra pour établir son règne de justice et de paix, tous les rachetés du Seigneur qui sont en lui, qui ont accepté l'humiliation aujourd'hui, la souffrance aujourd'hui, régneront avec lui. Quelle chose merveilleuse! Quand du ciel sortiront les chevaux blancs et le Seigneur à leur tête. Lisez le chapitre 1er de la 2e épître aux Thessaloniciens et vous verrez qu'il est dit quand il reviendra, il sera admiré dans les saints et glorifié en tous ceux qui auront cru. Le monde verra la gloire du Seigneur dans nos vies d'une façon parfaite. Et alors, verset 11, qui est-ce qui est descendu? Ce n'est pas la bien-aimée, c'est le bien-aimé. Je suis descendu au jardin des noisettes. Ça, c'est plus notre cœur. C'est un autre jardin. C'est Israël. Ce jardin des noisettes. Pour voir si la verdure de la vallée, pour voir si la vie bourgeonne, si les grenadiers s'épanouissent. Le Seigneur va reprendre ses relations avec son peuple Israël. On a vu un premier printemps. Dans le chapitre 2, il avait invité la bien-aimée de venir avec lui pour voir ce qui se passait dans notre propre vie, dans l'Église du Christ. Mais maintenant, il y a un autre jardin dont il va s'occuper, c'est Israël. Vous avez tout cela dans le chapitre 9, 10 et 11 de quel épître? Romains. L'épître aux Romains. Où vous apprenez que après s'être occupé de l'Église, Dieu va s'occuper, va reprendre ses relations avec Israël. Et alors, il voit maintenant si la vigne bourgeonne, si les grenadiers s'épanouissent. Il y a une nouvelle vigueur qui revient là en Israël, mais ce n'est pas encore cela. Mais son cœur est tellement désireux de faire du bien à ce peuple, et il va en faire, qu'il est dit, sans que je m'en aperçusse, mon âme m'a transporté sur les chars de mon peuple, de franche volonté. Son peuple, c'est qui ? Là, c'est Israël. Et je lis, pour terminer, en m'excusant d'avoir été si long, le psaume 110. Mais bientôt, le camp sera terminé, vous ne me verrez plus, et c'est bien. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour marchepied de tes pieds. L'Éternel enverra de Sion la verge de ta force, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera un peuple de franche volonté, dans la traduction d'Arpi. Au jour de ta puissance, en sainte magnificence, du sein de l'aurore, vous voyez qu'on retrouve l'aurore, du sein de l'aurore, te viendra la rosée de ta jeunesse. Que c'est beau si vous fondez les écrits. Voilà Israël, quand il était jeune, il suivait le Seigneur. Le commencement des fiançailles du Seigneur avec Israël, Jérémie chapitre 2. Et puis, ils ont abandonné le Seigneur. Le Seigneur qui dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu as trouvé en moi pour m'abandonner? Vous m'avez tourné le dos. Mais voilà qu'un jour, le peuple d'Israël sera converti et il retrouvera la rosée de sa jeunesse. L'Éternel a juré, il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Le Seigneur à ta droite brisera les rois au jour de sa colère, il jugera parmi les nations, il remplira tout de corps morts, il brisera le chef d'un grand pays, il boira du torrent dans le chemin, c'est pourquoi il lèvera haut la tête. Et bien que le Seigneur puisse vous donner le goût de retrouver ces vérités profondes, de relire tout cela, et pour demain, verset 13, reviens, reviens, c'est la mythe, reviens, reviens, et que nous te voyons. C'est évident que si vous voyez dans ce cantique des cantiques une œuvre érotique, ça ne vaut pas la peine de continuer. Mais si c'est la parole de Dieu, il n'a pas écrit ces choses pour ne rien nous dire. Il faut casser les noisettes pour manger la menthe. Dieu notre Père, nous nous remettons entre tes mains à ta bonté. Nous te bénissons de nous avoir permis de terminer cette journée avec ta parole. Nous nous confions à ton Saint-Esprit, qui sera notre mémoire et qui pourra, selon les besoins des uns ou des autres, nous rappeler au moment opportun une vérité que nous avons entrevue et qui nous deviendra plus claire et qui s'appliquera à notre propre état. Nous voulons te demander que tu façonnes nos cœurs et qu'au lieu de trouver tout cela compliqué, nous puissions de plus en plus découvrir la beauté, la simplicité, la logique spirituelle. Tout cela peut nous paraître folie, folie aux sages de ce monde, mais pour nous qui croyons, c'est la puissance de Dieu. Et je te demande de convaincre ces bien-aimés et que nous puissions aller jusqu'au bout de la mission que tu nous as confiée pour ta gloire et ton seul honneur en Jésus. Amen.
Mais bien aimé, quand je vous vois et que je pense à vous et que mes pensées se transforment en prières qui vous portent au sanctuaire, j'ai le désir profond d'être, comme le dit l'apôtre Paul, entièrement dépensé pour vos âmes, afin vraiment qu'elles obtiennent le salut qui est en Jésus. Et vous me direz, mais vous ne nous avez pas bien regardés. Nous sommes des sauvés. Mais nous sommes sauvés en espérance, mes bien-aimés. Et nous avons à travailler à notre propre salut avec crainte et tremblement. C'est l'heure de nous ressaisir. Et l'apôtre Paul, justement, quand il écrivait aux chrétiens de Rome, il leur disait qu'il désirait leur annoncer l'évangile. Mais Paul, nous connaissons l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile? L'évangile, ce n'est pas le petit salut, l'évangile, ce n'est pas juste une doctrine qu'on aurait comprise et qui serait la justification par la foi, sans les œuvres. L'évangile, c'est tout le conseil de Dieu. L'évangile, c'est le si grand salut de Dieu. Cet évangile dont nous n'avons pas honte et qui est la puissance de Dieu. Une puissance qui est une puissance. Une puissance qui se manifeste dans notre vie par une véritable transformation. Car là où l'Esprit de Dieu agit, il y a une opération en chaque vie de cet Esprit. Et cette opération, elle se poursuit chaque jour. On ne reste pas les mêmes, mais on est transformé par cette puissance du Saint-Esprit. Et le monde s'aperçoit de cette transformation. Et si vous êtes en contact avec les Écritures, il devient manifeste que vos progrès sont évidents à tous. Et que l'Écriture ne vous laisse pas intacte, mais vous amène de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ jusqu'à ce que nous ayons atteint la parfaite conformité avec lui et quand nous le verrons tel qu'il est. L'apôtre Paul disait à son enfant dans la foi Timothée, souffre par la puissance de Dieu. Souffre et souffre pour qui? Pour que les élus obtiennent le salut. Je ne doute pas que vous soyez parmi les élus, mais nous voudrions que vous puissiez dans cette vie-ci, sur cette terre, obtenir ce salut et jouir pleinement de ce salut. Non pas que vous disiez simplement que vous avez la vie éternelle, que vous êtes sûr de l'avoir, mais que réellement vous soyez de ces hommes et de ces femmes qui saisissent la vie éternelle et qui vivent de leurs possibilités. Est-ce que nous vivons de nos possibilités? J'ai été très frappé par le message que nous avons reçu d'Israël aujourd'hui, de Francine Roulet, que plusieurs connaissent, puisque nous avions soupé dans la clinique du docteur Church à Haïfa, la veille de notre retour du groupe Mahanaïm, Québec et France et Suisse, quand nous rentrions après 3 semaines d'études de la parole dans le pays de la Bible, de Jésus et des prophètes. Huguette Harari, qui est venu dans ce camp, qui nous a enseigné ce fameux banc Mahanaïm, était là, vous vous en souvenez, et de ce repas, la veille de la dernière conférence que nous faisions à Haïfa, dans une des grandes églises, l'église luthérienne de Haïfa. Eh bien, il y avait là cette Francine Roulet. Et en relisant ces quelques mots, elle qui est chassée d'Israël après tant d'années de service, elle nous écrit qu'elle prie pour que chacun de nous, les campeurs, et moi le premier, nous puissions voir notre situation devant Dieu. J'aime beaucoup cette expression. Examiner notre situation devant Dieu. Car vous savez, il y a des versets qui peut-être peuvent nous faire frémir et devraient nous faire frémir. C'est Jésus, l'homme si doux, si humble de cœur, qui a pu dire, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et qui la font, non pas par devoir ou par une force charnelle, mais qui la font parce qu'ils ont une puissance spirituelle qui les habite. Êtes-vous habité ou êtes-vous des logements vides près de la ruine? Êtes-vous habité par quelqu'un? C'est cela, être sauvé. Quelqu'un qui regarde par vos fenêtres. Est-ce que vos yeux sont les fenêtres de Jésus-Christ? Est-ce que vos oreilles sont possédées par Jésus-Christ, écoutant la voix du Père comme Jésus écoutait sa voix? Qu'est-ce qui captive votre entendement à l'écoute de qui, dans ce monde, vous trouvez-vous? Qu'est-ce qui remplit votre cœur? Oui, mes amis, je sens ma responsabilité profonde. Si c'est notre dernier camp Mahanaïm au Québec, si c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de réunir des jeunes et des moins jeunes en ce lieu, parce que en ces jours même, j'aurais dû être en France pour la célébration des camps des groupes bibliques universitaires. C'était vendredi, samedi, dimanche et aujourd'hui, et chose assez bizarre, il semblerait que je suis encore un des survivants des premiers camps de ces groupes dans ces temps héroïques où nous avons essayé d'implanter les groupes bibliques universitaires en France, en Suisse, en Belgique et en Italie. Et dans ce temps-ci, j'ai reçu cette lettre d'Italie pour l'année prochaine, pour le mois d'août, parce que là, nous célébrerons, si Dieu me donne encore la vie, le 40e anniversaire de la fondation des camps de Florence, où nous avons vu une multitude d'âmes sauvé. Et quand je retourne dans ces lieux et que je vois des hommes de 40, 45 ans et qui sont médecins ou qui ont de grandes responsabilités dans leur pays et qui me disent, écoute, nous nous souvenons encore des messages que tu nous as apportés et nous voudrions que tu les apportes maintenant à nos enfants, car ils ont des enfants de 18 ou 20 ans maintenant. Et vous savez, c'est assez bouleversant de voir que ce qui leur a été enseigné et ce qu'ils ont reçu, ce ne sont pas des paroles humaines, mais c'est la parole de notre Dieu que nous avons essayé de leur transmettre dans toute notre faiblesse, ne comptant que sur Dieu qui devient notre capacité, car en nous-mêmes, nous n'avons aucune capacité. Mais notre capacité est de Dieu. Et par sa grâce, même dans un vase de chair, dans un vase de faiblesse, dans cette tente périssable dans laquelle nous nous trouvons, eh bien, le Seigneur peut manifester encore l'excellence de sa puissance et les âmes peuvent reconnaître que cette puissance est de Dieu et non pas de nous. C'est pourquoi ce n'est pas avec nous que vous devez avoir affaire, mais c'est avec le Seigneur lui-même. Et nous en venons en ce lundi soir, 28 juillet, à poursuivre notre thème qui donc est Dieu. Et j'étais heureux du cantique que nos bien-aimés ont chanté tout à l'heure. Oui, nous nous posons cette question, mais qui est-il, ce Dieu? Et nous nourrissons notre méditation pour découvrir ce qu'est le vrai Dieu. Et nous méditons le cantique des cantiques, le poème des poèmes. Dieu notre Père, encore une fois ce soir, nous nous abandonnons à ta grâce. Et nous comptons sur la seule puissance de ton esprit pour captiver nos pensées, pour nous ôter toute distraction, afin que nous passions une heure d'éternité, un face-à-face avec toi, et que devant ta face glorieuse, devant l'immensité de ton amour, nos cœurs cèdent et se laissent captiver par celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang et qui veut faire de nous un royaume, non pas de petits nains, mais un royaume de sacrificateurs pour son Dieu et Père. Et que nous puissions, saisissant la vocation à laquelle nous avons été appelés, que nous puissions avoir dans ce monde une marche royale sur la route des cieux, pour la gloire de notre Père, dont nous nous disons être les enfants, pour la gloire du Seigneur Jésus, dont nous voudrions refléter l'image, cette image que le monde cherche jusqu'au fond de notre cœur. Et tu nous as donné, pour que nous puissions être des témoins, ton esprit, le consolateur. Et nous n'avons aucune excuse pour notre médiocrité, pour notre misère. Mais nous savons que si nous te confessons dans ces journées notre misère, nous ferons connaissance avec le Dieu des miséricordes. Et si nous reconnaissons notre état misérable, nous verrons l'immensité de la miséricorde de Dieu nous envahir. Et nous ne resterons pas là, assis sur nous-mêmes, mais nous serons relevés. Nous nous lèverons pour devenir ces redoutables dont nous parle le cantique des cantiques. Une bien-aimée redoutable qui a de la puissance sur Dieu, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Comme Jacob, vainqueur de Dieu, plus que vainqueur par celui qui nous a tant aimés. Amen. Mes amis, nous ne cesserons pas de vous redire que l'auteur du cantique des cantiques est un plus grand que Salomon. C'est en vérité le vrai fils de David. Et cette œuvre, ce chant de l'amour absolu, est réellement inspiré de Dieu dans toutes ses parties, dans ses 8 chapitres et dans ses, combien de versets? 117. Mais pour comprendre les choses profondes de Dieu, il faut avoir quoi ? L'esprit de Dieu. Et pour que cet esprit se manifeste en nous, il faut qu'il ne soit pas contristé. Car seul c'est par l'esprit de Dieu que nous pouvons sonder et comprendre les Écritures. Je vous lis quelques versets dans ce chapitre capital de la première aux Corinthiens au chapitre 2. Et alors, vous serez réjouis, mais saisissez maintenant par la foi toutes ces paroles. Il nous est dit ceci. Il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu. Vous avez lu votre texte. Vous n'avez pas vu certaines choses, hein? Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Je vous ai demandé de lire votre texte à haute et intelligible voix pour comprendre les mots que vous lisez. Vous n'avez peut-être pas entendu. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, vous avez dit après votre lecture, je trouve rien. Rien ne me parle, rien ne touche mon cœur, ce que je lis là, ben ça me laisse indifférent. Il faut croire que celui qui nous prêche est simplement un mystique, puis c'est tout. À moins que je sois un moustique. Ça pique quelquefois. Et ça vous démange. C'est une des maladies de la fin des temps. Ils auront des oreilles qui les démangent. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur plaisent. Alors ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitise. Je n'invente rien. Hein? C'est dans l'épître de Paul à Timothée. Et voilà un texte que me rappelle quelquefois ma femme quand je m'en vais partir. Et elle qui est la gardienne de mon ministère, cette sentinelle qui reste sur ce mont royal, alors que moi je suis d'un côté ou d'un autre de l'océan, eh bien elle me dit, mon Gaston, prêche la parole. Ne sors jamais de là. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte. Je n'ai pas d'autre tâche à faire. Alors, je pars en ayant aussi le regard de Dieu sur moi, mais aussi le regard de celle que Dieu m'a donnée.
comme compagne pour soutenir mon ministère et qui s'identifie à moi avant mon départ. Eh bien, que la grâce de Dieu nous fasse comprendre ces choses. Nous pouvons recevoir une révélation pendant que vous êtes ici, qui n'est pas monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Mais voilà le secret. Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que vous répondez à son amour? Dieu a préparé des choses merveilleuses pour ceux qui l'aiment. Mais qu'aimez-vous? Si vous aimez le monde, vous êtes adultère. Adultère que vous êtes. Vous ne pouvez pas être ami du monde et en même temps ami de Dieu. Ça ne se concilie pas. Jacques, chapitre 4. Mais Dieu, verset 10, l'a révélé ces choses par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses, même les choses profondes de Dieu. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas compris certains mots ou certains passages du Cantique des Cantiques que vous devez dire, pour ça je passe, ça ne veut rien dire. Ce sont des choses profondes, mais nous sommes tellement superficiels, tellement légers. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais nous, nous avons reçu non l'esprit du monde. Or, qu'est-ce que nous avons reçu? Qui pointe, hein? On a reçu l'esprit du monde. Et on a de plus en plus l'esprit du monde, même dans nos milieux évangéliques. C'est l'esprit du monde qui nous gagne, parce qu'on s'inspire des méthodes du monde, des moyens du monde, et puis on voudrait faire le service de Dieu avec ce que le monde emploie. Mais nous, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu, desquelles aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'esprit. Or aujourd'hui, il nous faut des paroles enseignées par la sagesse humaine. Et alors évidemment, on écoute. Et puis quand on demande après aux âmes, alors avez-vous compris cet exposé? Oh, vous savez, c'était très intéressant, mais c'était tellement profond que je ne peux pas vous dire ce que j'ai entendu. Eh oui, c'est ce qu'on entend si souvent. Quand on demande à des personnes qui nous vantent tel prédicateur ou tel orateur ou tel exposé, eh bien, on n'arrive pas à savoir ce qui a été dit. C'était tellement profond. Ou à des hauteurs si élevées que ça n'est pas retombé. Ça s'est désintégré dans l'espace. Verset 12. Verset 13. Desquels nous parlons, non point en paroles enseignées par la sagesse humaine, mais en paroles enseignées de l'esprit, communiquant des choses spirituelles par des moyens charnels. Version révisée. Hein? Par des moyens spirituels. Ça va ensemble. Hein? Or, l'homme animal ou psychique ne reçoit pas des choses qui sont de l'esprit de Dieu. Et justement, on s'adresse toujours à l'homme animal, à l'homme psychique ou psychique. Au psychisme. Or, l'homme animal, l'homme naturel, ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu, car elles lui sont folies. Et c'est vrai, vous lisez le Cantique des Cantiques, ben, vous dites, ben, ça c'est de l'érotisme, c'est tout. Autrement, ben, c'est de la folie. Il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent, comment? Spirituellement et non pas charnellement, comme on a voulu nous dire encore avant-hier. D'un message pastoral. Mais celui qui est spirituel discerne quelques petites choses, toutes choses. C'est pas formidable, ça?
Vous ne voulez pas vous emparer de cela ? Discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise ? Mais nous, nous avons la pensée du Christ. Et c'est cela qui compte, d'avoir la pensée du Christ. Car la pensée du Christ, c'était la pensée de qui ? Du Père. Lui disait, mais ce que je vous enseigne, ça ne vient pas de moi, ça vient de mon Père. C'est ça qui est fondamental. Vous allez droit dans le cœur du Père quand vous vous laissez enseigner par le Seigneur. Quelle relation merveilleuse d'entendre les paroles qui viennent de cette gloire éternelle. Voilà donc un chapitre que vous devez méditer quand vous voulez entrer dans la connaissance du cantique et des cantiques. Et je voudrais encore souligner une autre chose. Nous devons, quand nous lisons ce livre, nous souvenir que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Hein? C'est Jésus qui l'a dit lui-même. Mais qu'il les a révélées à qui ? Pas seulement à des enfants, mais à des petits-enfants. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, donc, c'est pas toutes vos connaissances intellectuelles qui vous permettront de saisir le sens profond du cantique des cantiques. C'est en ayant un cœur aussi humble qu'un petit enfant. Devenez de petits enfants pour recevoir avec douceur la parole implantée. Et alors, vous serez bénis et de larges horizons vous seront ouverts quand vous méditerez. Parce que Jésus dit, c'est cela, ô Dieu, que tu as trouvé bon. Il n'y a pas d'explication. Dieu a trouvé cela bon. Tu as trouvé cela bon devant toi. Qu'il en soit ainsi. Que ce soit des enfants qui comprennent. Une antique tradition d'Israël enseigne qu'au Sinaï, Dieu parla une fois, mais les 600 000 auditeurs au pied de la montagne entendirent 600 000 discours. C'est ce que dit une tradition israélienne. 600 000 hommes de pied étaient sortis d'Égypte. Ils se sont trouvés les 600 000 au pied de la montagne. Dieu a parlé une fois, on a entendu sa voix, mais les 600 000 ont entendu 600 000 discours. Il y avait une parole pour chacun. Et voyez-vous, vous devez comprendre que le Seigneur a quelque chose à vous dire, individuellement, personnellement. Et cette simple constatation de fait vont ici pour écouter ce poème des poèmes. Oui, Dieu parle, mais c'est nous qui entendons. Alors, comment entendons-nous ? C'est une des règles que je vous ai enseignées à l'école de Jésus. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Et souvenons-nous encore de ce principe de l'exégèse hébraïque, qui veut que chaque verset biblique ait combien de sens ? 70 sens. Alors n'opposez pas les 70 sens, mais réunissez-les, et alors vous aurez une âme nourrie de la parole de Dieu. Alors, lisons notre texte, les pieds déchaussés, nous rappelant que nous avons affaire à un Dieu saint, et même trois fois saint, qui ne tolère pas la souillure dans nos pensées, comme dans nos paroles et dans nos actions, que nous avons affaire à un Dieu de vérité, qui veut que nous ayons absolument dépouiller le mensonge. Un croyant, il ne ment plus. Il a en horreur le mensonge. Il a dépouillé le mensonge. Et il ne pense pas qu'il peut s'en tirer avec le mensonge. Parce qu'un mensonge m'amène à un autre mensonge. Et alors je détruis toutes mes relations parce qu'on ne peut plus se confier en moi. Parce que si je peux mentir sur un point, je peux mentir sur un autre. Et souvenons-nous que nous avons affaire à un Dieu qui ne se contente pas d'avoir des disciples au cœur partagé. Ton cœur est-il partagé? Nous l'avons entendu ce matin. Si l'Éternel est Dieu, il est là. Et si c'est Baal, courez après lui. Mais vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous croyez que vous pouvez servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas clocher les deux pieds. Et croyez-le bien, le Seigneur ne vous force pas à le suivre. Et ici, nous n'allons pas essayer de vous forcer à le suivre. Qui sommes-nous pour cela? Jésus, quand il voyait des gens qui venaient lui dire « Seigneur, nous voulons te suivre », il les mettait en garde. N'est-ce pas? Il ne faisait pas de la réclame pour lui. Et nous, on fait toujours de la réclame. C'est pas le Seigneur, ça. Mais, en tout cas, si nous prétendons le suivre, il attend que nous mettions nos pieds où? Dans l'empreinte de ses pas. Et nous savons où l'empreinte de ses pas va nous conduire? À la croix. À Golgotha. Où nous sommes identifiés à lui dans sa mort. Ce matin, à la première heure, nous avons eu cette vision de ce qu'est Golgotha encore aujourd'hui, quand dans les eaux du baptême, nous disparaissons pour en sortir vivants, mais d'une vie nouvelle. Alors, pour que ces textes ouvre à nos cœurs. Que nous faut-il? Bien, nous faut la prière. Et c'est pourquoi, quand on lit la parole, on est obligé de quoi faire? Prier. On dit, oh, mais moi, je ne sais pas pourquoi prier. Mais, c'est parce que vous ne lisez pas la parole. Parce que si vous commenciez à lire la parole, vous seriez obligé de prier. Et vous seriez poussé à prier aussi, parce qu'il y a tellement de promesses que vous seriez amené à dire, Seigneur, tu as dit cela. Bien, je voudrais que ça se réalise. Et vous iriez à Dieu avec des promesses. Et vous seriez enrichi quotidiennement, car Dieu n'est pas un menteur. Dieu est un souverain médecin, il est bon, et il voudrait vous enrichir chaque jour. Oh, puissiez-vous le comprendre? Alors, employez la prière, et je dirais même la supplication, quand vous ne comprenez pas quelque chose. Hein. Entrez en supplication, mais Seigneur, éclaire-moi, tu l'as dit. Puis, le croyant, vous rendez déjà grâce avant de savoir. C'est ça qui est tellement merveilleux. Vous suppliez, mais en même temps, vous rendez grâce. Des supplications avec des actions de grâce, c'est Philippiens 4, verset 7. C'est quelque chose de merveilleux. Alors, demandez, cherchez, frappez et rendez grâce. Pour avoir des nouvelles lumières, souvenez-vous aussi de ce que j'ai essayé de vous souligner, mettez en pratique ce que vous savez déjà. Parce que si vous êtes simplement des gens qui voulaient augmenter vos connaissances sans vivre de ce que le Seigneur vous a fait comprendre, vous n'entrerez plus en communication avec lui. Le Seigneur ne perd pas son temps. Il veut que vous soyez sérieux. Et voyez-vous, je le répète, j'ai été frappé par la lettre de Francine de Haïfa, qui est arrivée juste aujourd'hui, et qui nous dit que chaque campeur puisse examiner sa situation devant Dieu. Ça, c'est un message qui vient de Dieu. C'est une femme. Hein? Mais le Seigneur parle aussi par les femmes. heureusement. Alors je prie que ce soir, l'occasion pour beaucoup vous soit donnée de voir votre situation devant Dieu. Alors maintenant, je vous écoute. Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré de personnel dans ces textes que vous aurez lu, je l'espère, et que vous aurez eu l'occasion de sonder aujourd'hui? Vous n'avez pas, comme au camp familial qui a précédé ceux de Mahanaïm, des chapitres entiers, comme nos amis ont eu, car on étudiait le livre des juges, et soudainement, le Seigneur m'a donné l'ambition qu'on puisse couvrir les 21 chapitres. Mais 21 chapitres en quelques jours, hein, c'était quelque chose. Et j'ai eu l'audace, sainte audace, de proposer cela à ses participants qui ont accepté et nous avons pu couvrir le livre des juges. Mais quelquefois, ils avaient plus de 100 versets à lire avant une réunion. Hein. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait. Alors, vous avez remarqué que vous, vous n'avez que quelques versets. Que quelques versets. Et même, par exemple, demain, combien est-ce qu'il y en a? Un. Un seul verset. Et alors, vous ne pouvez pas me dire, ben, vous savez, c'est trop long. Mais c'est drôle, hein. C'est toujours trop long. Dans nos milieux même. On aime la parole, mais le plus court possible. Alors on resserre comme ça. Alors vous savez, et quand on voit cela, quand on sent cela, on a cette nostalgie de ces auditoires, de personnes qui vous disent, vous savez, moi j'ai fait 2 heures, j'en veux pour 2 heures. Hein. J'ai fait 2 heures de marche pour venir écouter la parole. Et ils ne veulent pas être distraits, ils sont venus pour la parole, pour être enseignés, ils ont faim de la parole. Alors, si c'est simplement pour accomplir le programme, on est là, 1 heure, dans 1 heure, ça ira mieux. Et puis on reprendra nos jeux, on reprendra nos distractions, nos conversations légères, et bien souvent nos paroles folles et nos plaisanteries douteuses. Hein? On connaît bien ça. Parce qu'il faut se détendre. Et oui, moi je sais aussi ça. Si je vous parle quand même un peu par expérience. Et elles ont été aussi bien minables, mes expériences, quant à moi. Mais quant à la fidélité de mon Dieu, je puis vous dire qu'il a été fidèle, et qu'il est fidèle, et qu'il sait nous reprendre, et qu'il sait nous corriger, et que nous sommes heureux de ses corrections. Parce qu'il est un père qui nous discipline. Et alors on connaît que nous sommes vraiment ses enfants. Je lis les textes que nous vous avons proposés, mais pour le laisser dans le contexte, parce que c'est toujours ça, relire et relire encore. Au chapitre 6. Où est allé ton bien-aimé, ô la plus belle parmi les femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il tourné? Et nous le chercherons avec toi. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, au parterre des aromates, pour paître dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi, il paît parmi les lys. Et maintenant, le bien-aimé. Tu es belle, mon ami, comme Tirsa, agréable comme Jérusalem, redoutable comme des troupes sous leurs bannières. Tu tournes de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres sur les pentes de Galad. Tes dents comme un troupeau de brebis qui montent du lavoir, qui toutes ont des jumeaux et... Pas une d'elles n'est stérile. Ta joue est comme un quartier de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines et 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Ma colombe, ma parfaite, est unique. Elle est l'unique de sa mère, la choisie de celle qui l'a enfantée. Les filles l'ont vu. Elles ont dit bienheureux. Les reines aussi et les concubines, et elles l'ont loué. C'est ce que nous avions vu ce matin. Mais il est nécessaire de revoir tout cela peut-être. Qui est celle-ci qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, redoutable, comme des troupes sous leur bannière? Je suis descendu au jardin des noisettes pour voir la verdure de la vallée, pour voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers s'épanouissent. Sans que je m'en aperçusse, mon âme m'a transporté sur les chars de mon peuple de franche volonté. Seigneur, encore une fois, bénis ta parole et ouvre-la à nos cœurs. Vous l'avez vu, ce passage? Qu'avez-vous à dire? Oui. Oui. Et puis il n'y a rien de forcé, hein. C'est vraiment volontairement, de franche volonté. On ne vous a pas influencé, on ne vous a pas forcé, on ne vous a pas pressé à ça. Et vous êtes parti. Oui.
Parce que moi, j'avais dit à partir de ma vie, ça m'avait pris beaucoup, j'étais ici. Là, je dis là, c'est complètement différent, j'en connais rien. Et puis au verset 12, là, ici, il dit « Sans que je m'en aperçue, mon âme a transporté sur les champs de mon peuple de sans volonté. » Si tu es, c'est ça,
c'est lui. Incontestablement, c'est lui, d'après le texte hébreu. Incontestablement. Mais quand on veut voir les trois personnages, on est obligé de dire elle, alors on fait nous-mêmes les corrections. Et c'est ça qui est lamentable. Et vous devez bien penser que j'étais sur mes genoux pour savoir quelle traduction je vous donnerai. Darby.
Parce que vous montrez ma traduction,
mais... Ah, mais je la connais. Je les ai toutes. Tu comprends? Et alors, vous ne comprendrez plus rien. Mais heureusement, même des savants catholiques témoignent que c'est lui aussi.